Bonjour à tous. Je m'en excuse par avance. Je vais refaire la même prédication que la dernière fois. Non pas parce que j'ai pas eu le temps d'en préparer une autre, mais parce que je me suis aperçu que à 13 siècles d'écart, Dieu avait donné la même leçon à son peuple. Alors à son peuple qui n'était plus le même pour le coup, mais la même leçon sur l'unité. Parce que la dernière fois, alors je vais prendre pardon pour ceux qui étaient là, mais pour ceux qui n'y étaient pas, je vais prendre 5 minutes pour résumer très brièvement mon propos de la dernière fois. Sur l'unité, j'avais évoqué un épisode de la conquête de ce qu'on appelle communément la terre promise, de la conquête de Canaan. Et c'est l'épisode, alors qui se trouve dans le livre de Josué au chapitre 22, et qui parle, alors, encore une fois, très, très brièvement résumé, les tribus, donc les 12 tribus d'Israël prennent possession des territoires conquis, et ces territoires conquis, ils sont à la fois à l'est du Jourdain et à l'ouest, alors ce qu'on appelle aujourd'hui Transjordanie et Cisjordanie, et très précisément, il y a deux tribus à l'est du Jourdain, Gad et Ruben, il y a 9 tribus de l'autre côté, c'est-à-dire entre le Jourdain et la Méditerranée, et il y a une tribu qui est à cheval sur les deux, c'est Manassé, et il prend l'idée, a priori saugrenue, aux deux tribus qui sont en Transjordanie, donc l'actuelle Jordanie, de construire au bord du Jourdain un autel, donc une espèce de grande table de pierre pour faire des sacrifices. Et évidemment, ça met en émoi les 9 autres tribus qui se disent que cet autel, il va servir à honorer des divinités qui ne sont pas le dieu du peuple d'Israël. Et donc, ils se préparent à faire la guerre aux 2 tribus qui ont érigé cet autel pour remettre les choses dans l'ordre. Et ils ont la bonne idée avant d'aller se battre contre eux, d'envoyer une délégation pour dire ce que vous avez fait là n'est pas bien et on ne l'acceptera pas. Et les 2 tribus, enfin 2 tribus ennemies, si on compte la moitié de Manassé, les 2 tribus ennemies répondent que pas du tout, c'est pas pour honorer des divinités étrangères que cet autel a été érigé, mais qu'au contraire, c'est pour honorer Dieu à un endroit stratégique, c'est-à-dire au bord du Jourdain, c'est-à-dire un endroit qui est visible par tout le monde, non seulement les 2 tribus, mais les autres, pour justement symboliser l'unité du peuple et pour que, précisément, on ne perde pas de vue que les 2 tribus qui sont de l'autre côté du Jourdain, parce qu'une fois qu'on sera sédentarisé, chacun chez soi, hein, et donc faut surtout pas perdre de vue que les 2 tribus qui sont de l'autre côté du Jourdain, ce sont aussi des tribus du peuple d'Israël qui honorent le même Dieu. Et que donc, ça fonde une unité qui est irrémédiable et que, justement, on ne veut pas voir battue en brèche. Et le propos, c'est de dire, il faut surtout pas, et c'est l'explication que donnent ceux qui ont construit l'autel, il faut surtout pas que vos enfants disent à nos enfants, parce que là, cette génération-là, ils le savent qu'ils font un peuple, mais il faut pas qu'à la génération du dessous, vos enfants disent à nos enfants, on n'a rien à voir avec vous. Et de ça, donc, je tirais 5 leçons. La première, c'est que ils ont toujours considéré que l'unité du peuple, ça n'était pas une option, c'est pas facultatif, c'est pas une variable, c'est une constante. Ils n'ont pas envisagé d'autres hypothèses, quitte d'ailleurs à se battre entre eux, mais ils n'ont pas envisagé une seule seconde l'hypothèse de dire vous c'est vous et nous c'est nous et chacun fait sa vie. Donc pas une seconde l'unité n'a été une hypothèse aléatoire. La deuxième leçon que j'en ai tirée, que le texte en tire, c'est que avant de se taper dessus, ils se sont parlé. Et ça, quand même, c'est une grande leçon. C'est-à-dire, avant le moment où on ne peut plus se parler, aller se dire les choses, quitte à se les dire brutalement. C'est quand même mieux que de commencer par se taper dessus avant de se parler, parce que de toute façon, après, c'est trop tard. La troisième leçon, c'est que, et là le texte est éloquent à ce sujet, enfin les termes employés sont éloquents, quand les deux tribus ont donné cette explication-là, les autres, c'est-à-dire la délégation, parce qu'il y avait une délégation des 9 autres tribus, même 10 autres tribus, leur ont fait confiance, c'est-à-dire les ont crédités à la fois de bonne foi et de sincérité. Parce qu'ils auraient pu dire, oui, vous nous dites que c'est un hôtel pour Dieu parce qu'on est à ça de vous taper dessus, mais en réalité, tiens mon œil, là vous êtes en train de nous balader. Pas une seconde ils n'ont pensé ça, et ils ont, l'unité a été garantie par le fait que chacun voyait dans son interlocuteur quelqu'un de sincère et quelqu'un de vrai. La quatrième leçon qu'on pouvait en tirer, c'est que ils ont réussi à dépasser leurs a priori, à dépasser leur représentation, comme on dirait aujourd'hui, à savoir que construire un hôtel à cet endroit-là, c'était plus que suspect, parce que l'hôtel, normalement, on le construit là où est Dieu, là où est le Dieu qu'on honore. Or, le Dieu qu'on honore, il était, puisqu'il avait été transporté pendant tout le périple dans le désert, donc dans un coffre, la fameuse arche de l'Alliance, si vous avez vu Indiana Jones, vous savez de quoi on parle. Et donc, là, en l'occurrence, l'arche était à Silo, dans un bled qui s'appelle Silo, et donc, s'il avait fallu construire, et d'ailleurs il y avait, un hôtel pour les sacrifices, c'est là qu'il fallait le mettre, et surtout pas ailleurs. Et ils ont réussi, et c'est la quatrième grande leçon, pour garantir l'unité, il a fallu qu'ils passent outre les préjugés qu'ils avaient, c'est-à-dire on ne fait de sacrifice que là où est Dieu, mais l'idée qui était difficile à avaler que Dieu il n'est pas forcément seulement dans l'arche, mais qui peut aussi, parce qu'il est partout et tout le temps, être honoré à un autre endroit, c'est-à-dire au bord du Jourdain, ça, il a fallu un gros effort intellectuel pour l'accepter. Mais ils l'ont fait. Et puis, cinquième leçon, ils se sont projetés, parce que quand on lit le texte, on s'aperçoit que, projetés vers l'avenir, c'est-à-dire que l'unité, c'est bien sympa sur le moment, mais il faut aussi faire en sorte que ce soit pérenne, c'est-à-dire, eux, ils ont fait ça, non pas pour leur génération, qui encore une fois savait, parce qu'ils avaient, passé 40 ans dans le désert, donc... ils savaient bien qui était du peuple et qui ne l'était pas. Il n'y avait pas besoin de leur rappeler. Mais c'est pour la génération suivante. Si on veut que la génération suivante, si on veut qu'à l'avenir, l'unité du peuple soit garantie, alors il faut faire en sorte de pérenniser cette unité et le lien qui nous unit. Voilà. Donc ça, c'était ce que j'avais globalement... Alors, évidemment, je l'avais développé, mais je pense que pour ceux qui n'étaient pas là, ça fait un résumé assez... assez approprié de ce que je disais la dernière fois. Et je me suis aperçu, puisque là, on parle de l'époque où le peuple de Dieu, de l'ancienne alliance, c'est-à-dire Israël, devient une nation, c'est-à-dire s'installe sur une terre, et je me suis aperçu que au moment où le nouveau peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, devient aussi une nation, alors pas avec une terre, puisque le royaume n'est pas de ce monde, mais devient aussi une nation, au sens où Paul le développera, mais je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, la même leçon lui est donnée à ce peuple sur l'unité. Mais exactement la même. Alors, c'est un texte que tout le monde connaît bien, que je vais lire rapidement. Donc l'Église, vous savez comment ça commence et à quel point... c'est presque trop beau pour être vrai. C'est l'Église du début, c'est l'Église dont on rêve tous. Qui n'a pas envie que 3000 personnes se convertissent à grâce dans la même journée? Qui n'a pas envie qu'on soit à ce point unis les uns aux autres, que tout le monde vende tout ce qu'il a, et qu'on mette ça en commun, et qu'on donne à chacun ce dont il a besoin? C'est le communisme spiritualisé, c'est-à-dire l'idéal d'Église. L'Église où on se permet de dire, dans le livre des Actes, et la formule est forte, l'ensemble de ceux qui avaient cru était un seul cœur et une seule âme. Waouh ! Il va falloir y penser tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai demandé à David de faire ça dans ce sens-là. Et pourtant, ça va coincer. Comment est-ce qu'une église dirigée par des gens qui ont passé 3 ans au quotidien avec le Seigneur lui-même à entendre son enseignement pas à pas, c'est le cas de le dire pas à pas parce qu'il les a fait marcher. Comment est-ce que une église comme ça, qui a miraculeusement par le Saint-Esprit était rendu uni malgré sa diversité, puisque vous vous souvenez de l'histoire de la Pentecôte, il n'y en a pas deux qui parlent la même langue. Et pourtant, tout le monde comprend tout. Et pourtant, le Saint-Esprit cimente cette unité. Alors, si c'est le Saint-Esprit qui le fait, et de manière aussi spectaculaire, qui pourrait le défaire? Je vous le demande. C'est l'Église idéale. Pourtant, il ne va pas falloir 15 jours pour que ça coince. Ce qui me fait dire d'ailleurs, comme première leçon, l'église idéale, c'est pas l'église où il n'y a pas de problème. C'est l'église qui sait les surmonter, ce qui n'est pas du tout la même chose. La fidélité d'une église, elle se mesure pas à « on n'a pas de problème », elle se mesure à « comment on les gère ». Parce que l'église idéale des premiers temps, elle est face à des problèmes. Là, je vais en citer un, mais il y en aura d'autres. Et la question de sa fidélité, elle ne se pose pas en termes « est-ce qu'on a été assez malin pour éviter les problèmes ?» C'est « est-ce qu'on a été assez fidèle pour les surmonter comme Dieu nous les a donnés à surmonter » C'est-à-dire, est-ce qu'on a subi victorieusement l'épreuve qui nous a fait grandir? C'est de ça qu'il est question. Acte 6. En ces jours-là, alors, avant de lire, je vais situer le contexte. Donc, l'Église, elle est une, unie par l'Esprit-Saint, mais ce qui n'empêche pas que, humainement, elle est plurielle. La preuve, c'est que il a fallu que le Saint-Esprit fasse quelque chose de très spectaculaire pour que tout le monde comprenne le message. Puisqu'encore une fois, le jour de la Pentecôte sont concentrés à Jérusalem tous les Juifs venus de partout, et donc, il y a les Juifs de Palestine, les Juifs d'Israël qui parlent, alors l'araméen, donc, qui est un dialecte mélangé d'hébreu et de, c'est un truc qu'on a ramené de, c'est un dialecte qu'on a ramené de la déportation à Babylone, donc plus ou moins il y a des mots babyloniens là-dedans, il y a, c'est un peu un mélange, mais enfin globalement, la langue religieuse c'est l'hébreu. Donc ça, tout le monde connaît l'hébreu religieux comme tout le monde connaissait le latin religieux au Moyen-Âge en France. D'ailleurs, la langue française du Moyen-Âge, c'est à peu près l'araméen par rapport au latin. La langue française du Moyen-Âge, c'est l'équivalent, enfin, c'est au latin ce que l'araméen était à l'hébreu, si vous voulez. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la linguistique. Et donc, on a mis tous ces gens-là ensemble, enfin, on a mis tous ces gens-là se sont retrouvés à vivre la même aventure ensemble, donc on vend tout, on met tout en commun, bon, très bien, mais pour autant, les différences culturelles demeurent. Alors, ils sont tous juifs, c'est entendu, puisqu'il y a les juifs de Palestine, et puis les juifs qui viennent d'ailleurs pour les fêtes, puisqu'on se rassemble pour les fêtes, donc là on était rassemblés pour la Pentecôte, bon, très bien, et puis du coup ils sont restés. Ils sont restés parce que cette aventure qui commence, et ils sont restés avec leur arrière-plan culturel. Et donc, dans cet arrière-plan culturel, il y a la source, il y a le germe de tous les ennuis des hommes depuis la fondation du monde. Vous avez reconnu, j'ai nommé la femme. Non, je plaisante en le disant comme ça. Mais non, pourquoi est-ce que la femme est un problème? C'est pas la femme qui est un problème, c'est le statut de la femme. Pourquoi est-ce que le statut de la femme est un problème? Pas parce que pour les juifs de Palestine, la femme n'est pas un sujet de droit, c'est un objet de droit. C'est choquant pour nous de lire que dans la loi de Moïse, Quand on dit « tu convoiteras pas la femme de ton voisin », c'est au milieu de la liste, avec son bœuf, son âne, sa maison, sa charrue, ses bœufs, etc. Parce que la femme, ça fait partie du patrimoine. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que dans l'autre culture, alors qui est immensément plus étendue, qui est la culture grecque, dans le bassin méditerranéen, dans l'autre culture, la femme n'est pas un objet de droit, mais un sujet de droit, c'est-à-dire qu'elle a des droits, elle existe par elle-même. Bon, et qu'est-ce qui va coincer? Il va coincer que, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais tout le monde le sait, donc on vend tout, on met l'argent au pied des apôtres, et débrouillez-vous. Alors, débrouillez-vous, ça veut... Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'abord parce que on se sépare des moyens de production, parce que on pense que le retour du Seigneur est imminent, et donc on se dit, c'est pas la peine de garder des maisons, des champs, des machins, puisque de toute façon, il y revient... ça va être au plus la question d'une génération, puisqu'il avait dit cette génération-là ne passera pas tant que. Bon, donc c'est l'affaire de quelques semaines, peut-être de quelques mois, au pire de quelques années, mais de toute façon, il n'y a pas besoin de garder des moyens de production, il suffit de tout vendre, et puis le temps qu'on ait consommé tout ce qu'on a vendu, il sera revenu. Bon. Donc c'est comme ça que l'Église de Jérusalem fonctionne. Donc, au-delà de leur mission proprement dite d'apôtre, ça oblige les apôtres qui se retrouvent avec un paquet de pognon dans les mains à gérer une logistique considérable, parce que, encore une fois, 3000 convertis par jour, alors c'est peut-être pas tous les jours, mais enfin, ça fait quand même du monde. Donc, l'Église naissante, ils sont pas 15, hein, ils sont des milliers, qu'il faut donc nourrir. Et donc, ça, c'est les apôtres qui gèrent, et qui gèrent comment ? Qui gèrent comme ils savent gérer, avec leur culture à eux, c'est-à-dire une culture hébraïque dans laquelle la femme n'existe qu'indirectement. Concrètement, une femme en Palestine, elle n'existe statutairement que par son père. Quand c'est pas par son père, c'est par son mari. Quand c'est pas son mari parce qu'il est mort, par son beau-frère, enfin son beau-père d'abord, son beau-frère, son frère, bon. Mais il y a toujours un homme. Parce que n'imaginez pas que les 12 apôtres qui ont ramassé le produit de la vente de tous les biens, ils fassent ça individuellement. Parce que sinon, nourrir tous les jours des milliers de gens, un par un, c'est pas gérable. On y passe la journée, la nuit, le week-end, bon, on fait plus que ça. Donc c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, avec une formule... moderne, le ruissellement, c'est-à-dire qu'on appelle les chefs de famille et on leur dit, tiens, ça c'est pour ta famille, ça c'est pour la tienne, toi ils sont combien dans ta famille? Bon, donc il n'y a que les chefs de famille qui vont vers les apôtres. Sauf que, comme je vous le disais, donc, les femmes juives, dans les chefs de famille, elles sont représentées, puisqu'il y a toujours soit un père, soit un mari, soit un oncle, soit un beau-frère, soit bon, ce que vous voulez, chez les Grecs, c'est-à-dire chez les autres, parce que là, il ne faut pas prendre le mot grec au sens étroit, prendre le grec au sens large, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas juif, c'est dans ce sens-là que Paul dira il n'y a plus ni juif ni grec. Alors, c'est pas que les juifs et que les grecs, c'est grec au sens pas juif. Donc, chez les pas juifs, qu'on va appeler les grecs, ça se passe pas comme ça, c'est-à-dire qu'une femme, elle peut très bien, à partir du moment où elle n'est plus ni chez son père, ni chez son mari, parce qu'il est mort, donc elle est veuve, elle existe par elle-même. Sauf que les apôtres, qui sont des juifs de Judée, cette veuve-là, ils ne la voient pas, tout simplement. Donc, au moment de la distribution des repas, et donc il se passe ça. Alors, le premier jour ça va bien, le deuxième jour aussi, mais la veuve de culture grecque a perdu 10 kilos, ça commence à secouer. En ces jours-là, le nombre des disciples... En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait, et les hellénistes, c'est-à-dire les... Alors là, il faut comprendre... C'est écrit comment, là? Les hellénistes aussi. Donc, les hellénistes, ça veut dire c'est les gens qui sont de langue grecque, si vous voulez. Le grec, c'est un peu ce qu'est l'anglais aujourd'hui, si vous voulez. Imaginez l'anglais au Parlement européen, c'est-à-dire tout le monde... parle ou bidouille plus ou moins, alors personne, enfin, tout le monde ne connaît pas, à part Paul, l'apôtre, Tout le monde ne connaît pas les auteurs grecs dans le texte, mais tout le monde bidouille plus ou moins un peu de grec juste pour se faire comprendre, pour demander son chemin. Donc voilà. En ces jours-là, le nombre des disciples augmentait, et les hellénistes se mirent à récriminer contre les Hébreux, donc là on les appelle les Hébreux pour montrer qu'ils sont de culture juive, parce que leurs veuves étaient oubliées dans le service quotidien. Donc maintenant vous avez compris pourquoi. Les 12 convoquèrent alors l'Assemblée Générale, on dit quoi ici ? La multitude des disciples, oui, enfin, c'est pareil, l'Assemblée Générale des disciples, et dire « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi vous, frères, 7 hommes de bonne réputation, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, nous continuerons à assurer la prière et le service de la parole. Cette proposition fut agréée par toute l'Assemblée. On choisit, alors on donne leur nom, pour montrer qu'ils sont, eux, de culture grecque. Enfin, pas tous, mais en tout cas, majoritairement. Cette proposition fut agréée par toute l'Assemblée, et on choisit Étienne, un homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. On précise prosélyte d'Antioche, lui, il n'est même pas juif de naissance. C'est vous dire si on ratisse large. On le présenta aux apôtres, on pria pour eux et on leur imposa les mains. Voilà comment le problème est réglé. Et ce que je vais rapidement vous dire, parce qu'il me reste peu de temps, c'est que il y a exactement dans cet épisode-là la même leçon que pour le peuple d'Israël au moment de la conquête de Canaan. Première leçon, donc je reprends les 5 points, vous pourriez le dire à ma place. Première leçon, l'unité n'est pas une option. L'unité n'est pas une option. Ça aurait été facile de dire, bah écoutez, on n'est vraiment pas pareil, vous et nous. Vous, les Grecs, entre guillemets, qui donnez à la femme une place qu'on ne lui donne pas, très clairement, qui avez des représentations au sens psychologique du terme, complètement différentes des nôtres, et c'est vrai. Alors, ils ont beau être juifs, donc, effectivement, ça fait des liens, comme on dit. Bien sûr qu'ils sont de la même religion que les juifs de Palestine, mais ils sont tellement ils sont immergés dans une culture tellement différente que, d'abord, leur langue, enfin, ils connaissent, du coup, très très peu d'hébreu, juste ce qu'il faut pour lire la Torah. Ils parlent pas araméen, parce que c'est un dialecte. Ils parlent donc tous grec, avec chacun le dialecte de son patelin, d'où la Pentecôte avec la liste de toutes les langues, voilà. Et surtout, culturellement, ça n'a rien à voir. Et donc là, la solution de facilité, c'était de dire, bah écoutez, on va pas essayer d'être une église en rentrant ça avec un chausse-pied, ça marchera jamais. Considérons, puisque chez les juifs, ça se pratiquait, hein. Au chapitre suivant, on parle de la, vous connaissez l'expression, de la synagogue des esclaves affranchis, c'est-à-dire que c'était tellement compliqué de faire cohabiter des gens qui avaient toujours été libres et des gens qui étaient d'anciens esclaves que, du coup, on avait fait une synagogue à Jérusalem que pour les anciens esclaves. Ce qui est une façon de gérer le problème. À Paris, personne ne l'ignore, il y a des églises ethniques, enfin, qu'on appelle églises ethniques, parce que la culture du Mali ou du Nigeria est tellement différente de la nôtre que ben, c'est plus simple que chacun fasse son culte dans son coin. Pour eux, ça n'a pas été une option. Ils auraient pu dire, grec d'un côté, helléniste, et hébreu de l'autre, c'est-à-dire culture juive et culture grecque, c'est tellement inconciliable, enfin tellement difficile à concilier qu'on ne va pas s'épuiser à être unis jusqu'au bout. C'est pas compliqué après tout. On ouvre un truc qu'on va appeler église évangélique hébraïque, 3 rues plus loin, église évangélique helléniste, et le problème est réglé. Et tous les 3 mois, on fera une pastorale pour faire croire qu'on est unis. Et puis peut-être un culte ensemble tous les ans. C'est pas comme ça que ça marche. ils n'ont pas du tout cette approche-là. Le peuple de Dieu, il est un, tout simplement parce que Jésus l'a ordonné. Alors, encore une fois, ce que... mais je vous l'ai dit à plusieurs reprises, et ça c'est personnel, ce que j'aime dans notre Église, c'est que, et ça c'est, on n'a pas de mérite, hein, c'est une grâce que Dieu nous fait. Il y a des presque pentecôtistes parmi nous, il y a des presque, je sais pas moi, Action Biblique, il y a des presque baptistes, il y a des... Alors c'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'on a des arrière-plans différents, des représentations différentes. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que pour autant, autant que faire se peut, il y a eu des ratés, je vous le concède, mais autant que faire se peut, on considère pas que l'unité soit une option, une variable d'ajustement, comme on dit maintenant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont pas dit, la solution la plus simple, c'est de se serrer la main et de se dire au revoir et d'ouvrir chacun sa boutique. Et au contraire, ils ont pris la mesure du problème, parce que c'était pas un problème simple à gérer, ça ils le savent. Et donc du coup, ils vont le gérer en profondeur, pas superficiellement. C'est bon, les trois veuves grecques qui ont perdu 10 kilos, vous leur donnez à manger, vous leur donnez une double ration au prochain repas et puis l'affaire est réglée. Non, il faut s'organiser. Pour que ça n'arrive plus. Il faut s'organiser pour que l'unité soit garantie. Donc du coup, alors ça paraît énorme, ça paraît même disproportionné, mais on fait une assemblée générale. Et je vous rappelle qu'ils sont plusieurs milliers. On fait une assemblée générale parce qu'il faut en parler, il faut que tout le monde se sente concerné, et il faut que la solution soit adoptée et acceptée par tout le monde. Parce que l'unité, elle est à ce prix-là. Première leçon. Deuxième leçon, et encore une fois, c'est les cinq mêmes leçons. Hein. Il faut se parler pendant qu'il en est encore temps. Il faut se parler pendant qu'il en est encore temps, et là, le risque, il est grand pour les chefs de famille hellénistes, donc de culture grecque, de laisser le couvercle sur la casserole, et tout le monde sait bien, depuis que la psychologie nous l'a appris, que laisser le couvercle sur la casserole, c'est se prendre le couvercle dans la figure au moment où ça pète parce qu'il y a trop de pression. Ça aurait donné quoi, concrètement? Ça aurait donné que on écrase le coup, on laisse les veuves grecques continuer de maigrir, le jour où il y en a une qui meurt, alors là on peut plus parler du coup. Mais surtout, ce que les hellénistes auraient pu faire, c'est de dire, bon attendez, ils nourrissent pas nos veuves. Bon, pas la peine d'aller se battre contre eux, ça va être simple. Tout le monde jusqu'à maintenant vend tout ce qu'il a et apporte ça aux pieds des apôtres en disant, à vous de gérer. Plus question. Plus question. Notre pognon, on va se le garder, et nous, on va aller nourrir nos veuves. On va faire notre circuit parallèle dans notre coin, et on va pas laisser des gens qui ont fait la preuve de leur incapacité, on va pas laisser les gens qui ont fait la preuve de leur incapacité gérer ce problème. On va le gérer entre nous. Ce qui était une autre façon de perdre l'unité. Et ils n'ont pas fait ça. Alors, ils se sont, si tu peux réafficher le texte, je ne sais pas comment c'est traduit, ils se sont parlé, alors parlé, je l'avoue, pas très gentiment, parce que le verbe est traduit comment ? Acte 6. C'est mignon, là. Il s'éleva un murmure des hellénistes contre les... Oui, ils ont gueulé, hein. Ils ont, en tout cas, râlé. C'est ça que dit... Enfin, le grec dit... Ils ont revendiqué ça pas très gentiment. Bon. Mais au moins on se parle. Au moins on se parle. Au moins on va se dire les choses pour que il n'y en ait pas la moitié qui gère le problème à l'insu de l'autre moitié. Et ça c'est important. Troisième leçon, c'est sur la sincérité et la bonne foi. C'est-à-dire que ce qu'il faut mesurer là, c'est que les gens, les hellénistes, appelons-les comme ça, donc les gens de culture grecque, ont fait confiance aux apôtres pour régler le problème. Autrement dit, au lieu de penser ce qu'ils auraient pu faire, que vous connaissez, une phrase qui est abondamment rebattue, ça n'est jamais ceux qui sont à l'origine d'un problème qui peuvent être à l'origine de sa solution. Ils auraient pu penser ça, en disant, vous les mecs, les apôtres, vous êtes à l'origine du problème, hein, c'est grâce à vous que nos veuves ont retrouvé la ligne, c'est sûrement pas vous qui allez être capable de résoudre la question. Donc ça, on veut bien confier le sujet à qui vous voulez, mais surtout pas à vous, puisque si on en est là, c'est par votre faute. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont crédité les apôtres d'une sincérité et d'une volonté de vérité et de justice, au sens de chercher le royaume et sa justice. Je suis toujours embêté, parce qu'en français... En français, le mot justice est connoté. En anglais, c'est pas le même mot. C'est pas le même mot pour parler de la justice devant les tribunaux et pour parler, en anglais, c'est righteousness. Donc ça n'a rien à voir avec, donc faire ce qui est juste, faire ce qui est droit. Ils ont crédité les apôtres de la volonté farouche de faire ce qui était droit en disant, on vous fait confiance. Et donc ceux qui, par négligence, avaient généré le problème, par négligence et aussi par contrainte culturelle, en s'apercevant pas que les Grecs ne fonctionnaient pas comme les Juifs, pas les Juifs hébraïques, en cette négligence, cette faute, responsable mais pas coupable, comme on dit, ils se sont pas dit, puisque vous n'avez pas été capable de prévoir ça, vous serez pas capable de trouver la solution. Non, c'est Dieu qui vous a institué pour diriger l'Église, alors on vous fait confiance. On vous signale le problème, et on vous le signale énergiquement, c'est-à-dire on vous engueule. Hein. Mais par contre, puisque c'est vous qui êtes en charge de ça, ça va être à vous de le gérer. Donc vous êtes, à nos yeux, habilité à convoquer l'Assemblée Générale, à recueillir la décision unanime et à la mettre en œuvre après. Et bien leur en a pris, puisque effectivement, ils vont être capables de, donc non seulement de réunir l'Assemblée Générale, mais de prendre la décision, et alors là j'en arrive au quatrième point, c'est-à-dire accepter d'être bousculé dans ses habitudes et dans ses représentations. Il faut mesurer à quel point c'est un effort quasi surhumain pour des Juifs de Palestine de dire toute la partie logistique, la partie gestion, la partie répartition des richesses, c'est-à-dire quand il va s'agir de nourrir les gens, ce qui est quand même du concret, c'est-à-dire gérer la fortune accumulée par la vente des biens de tout le monde, qui nous avait été confiée à nous pour gérer ça, eh bien, puisque nous, on doit prioritairement se consacrer, comme ils le disent, à la parole et à la prière, eh bien ça, on va le déléguer. Et on va le déléguer à qui ? On va le déléguer à des gens qui ont une autre culture, d'autres repères, d'autres représentations, et qui vont agir autrement que comme nous, on l'a fait. Et ça, accepter d'être bousculé, c'est comme 13 siècles plus tôt, accepter de dire l'autel, il n'est pas forcément pile devant le coffre, c'est-à-dire l'arche de l'Alliance, et pile devant la tente de la rencontre. Il peut être ailleurs parce que Dieu peut être ailleurs. Et là, le courage des Juifs de Palestine de dire Dieu, il peut agir par le biais d'une autre culture que la nôtre, ça, si c'est pas l'Esprit Saint qui les a guidés, alors ils s'en sortaient pas. Dernier point, parce que j'ai dit 5, et donc je vais m'arrêter à 5. Dernier point, c'est il faut préparer l'avenir. De la même manière que le peuple d'Israël, ils avaient dit, mais ce qu'on est en train de faire là, c'est pas pour nous, c'est pas pour notre génération, c'est pour nos enfants. Là, c'était pas pour les enfants, et ils le savaient pas encore. Mais cette épreuve que Dieu leur a envoyée, en préparer une autre bien plus grande, dans le même registre. L'épreuve de l'unité. Allez-vous être capable, parce que vous êtes des Juifs de Palestine, mais pas seulement, et que vous êtes des Juifs qui venez de partout dans la culture, dans le monde connu de l'époque, c'est-à-dire le bassin méditerranéen, donc majoritairement de culture grecque, est-ce que vous allez être capable de gérer ça? Et ça, ça vous prépare pour l'avenir, parce que si vous êtes fidèles dans les petites choses, vous en confierez de grandes. Et la grande affaire de l'unité de l'Église, elle n'est pas là. Là, c'est un tour de chauffe. Là, c'est une répétition générale. Là où ça va être chaud, c'est quand il va falloir faire cohabiter dans l'Église des Juifs de partout et des gens qui ne sont même pas Juifs, qui ne le sont alors pour le coup pas du tout. C'est-à-dire là, c'est pas une question simplement de « moi je suis juif, mais de manière hellénistique, et moi je suis juif de manière hébraïque ». Non, c'est « moi je suis juif, et toi tu ne l'es pas ». Et pourtant, Dieu nous a appelés à faire partie du même corps. Dieu nous a appris à être des pierres de la même construction. Je construirai mon église. Et tout d'un coup, on va tomber des nues, parce que Dieu a décidé de construire son église avec des pierres qui sont même pas juives. Et ça, ça va être compliqué. Alors, vous connaissez le Nouveau Testament, et vous savez à quel point ça va faire couler de la salive, de l'encre, ça va donner lieu à des frictions, à des assemblées générales assez chaudes, comme parfois on en a l'habitude ici. Mais Dieu nous met au défi de ça. Et là, dans cette répétition générale de la capacité d'unité, c'est comme s'il leur disait montrez-moi que vous êtes capable de rester unis dans ce petit cercle-là qui pour l'instant est judéo-juif, on est entre nous, même si on n'est pas de la même culture, et si ça marche, si vous en êtes capable, alors là, je vais vous envoyer, et c'est ce qui se passera dans les chapitres suivants, je vais vous envoyer des gens auxquels vous devrez vous unir, avec qui vous devrez vivre une vraie unité dans l'esprit, et qui pourtant ne seront pas juifs du tout. Alors, se posera des questions qui ne se sont jamais posées avant. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les oblige à être juifs? Est-ce qu'on les circoncit? Est-ce qu'on les circoncit pas? Enfin, c'est très compliqué tout ça. Est-ce qu'on les oblige à respecter la loi? Est-ce qu'on les oblige à pas respecter la loi du tout? Est-ce qu'on les oblige à respecter la moitié de la loi? Tout ça, il va falloir l'inventer. Mais si vous avez comme phare, si nous avons comme phare, oserais-je dire, l'unité, la nécessaire unité, l'indispensable unité, comme socle commun, alors tout deviendra possible. Et effectivement, tout deviendra possible, et grâce au fait qu'ils rendront tout ça possible, alors l'Église, selon la promesse, selon l'annonce que Dieu lui-même avait faite, va se répandre non seulement en Judée, mais aussi en Samarie. Il n'y a pas d'effort considérable à faire. Bon, les Samaritains, vous savez, comme les Juifs de Judée aiment les Samaritains, hein, au point qu'on fait le détour pour pas, quand on va en Galilée, on passe pas chez eux. Bon, sauf Jésus qui, lui, fait toujours n'importe quoi et qui non seulement s'arrête au bord du puits, discute avec une fille dont on ne sait pas. Bon, mais ça, il faut s'appeler Jésus pour partir dans des, pour sortir de la route à ce point-là. Mais nous, les Juifs, les Samaritains, hein, les collabos, qu'on fait Césarée en l'honneur de César, bon, ces collabos, nous, on est les purs, on n'en entend pas parler. Là, il va falloir pourtant que le même message se répande en Judée, en Samarie, en Galilée, et finalement jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour ça, il faut démontrer une capacité à l'unité qui dépasse les clivages de représentation culturelle, linguistique, etc. Tout ça pour dire qu'on est différents. Nous, alors, bon, il ne manquerait plus qu'il y ait des Noirs. Non, je plaisante. On est différents à l'intérieur. Et ça peut être une chance. Ça peut être une chance. ça peut être une richesse, à condition qu'on sache que l'unité, ça doit pas être l'occasion de prendre de la distance, enfin, la différence, ne doit pas être l'occasion de prendre de la distance avec l'autre, mais au contraire, de s'enrichir, parce que Dieu a donné ça comme une richesse, de s'enrichir de nos différences. Alors, voilà la raison pour laquelle j'ai suggéré que nous prenions maintenant seulement la scène. Il est de coutume de rappeler au moment de la scène ce qu'on appelle de manière liturgique le texte de l'institution. Le Seigneur libre, etc. Donc ça, on le connaît par cœur. Moi, il y a une parole qu'on cite assez peu de Jésus que je voudrais rappeler au moment de partager ensemble le pain et le vin, c'est qu'il a dit « J'avais tellement envie, j'ai eu tellement envie de partager ce repas avec vous. » Il est en train de donner sa vie pour l'humanité et singulièrement pour nous. C'est plus qu'une épreuve, c'est une épreuve comme on ne peut pas humainement l'imaginer. Et il dit, ça, j'en ai énormément envie. J'ai énormément envie de me sacrifier pour sauver les hommes. Donc moi, je voudrais juste qu'à notre petit niveau, on soit capable, en se regardant tous les uns les autres, qui qu'on soit, quelles que soient nos relations avec les uns et les autres, bien sûr qu'il y a des affinités, bien sûr qu'il y a des gens qui s'entendent mieux avec les uns qu'avec les autres. On est humain. Mais je voudrais qu'on soit capable de dire, au moment de prendre la scène, en regardant n'importe lequel d'entre nous dans les yeux, j'avais tellement envie de partager ça avec toi.